Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 8h, merci d'être avec nous.
Tout le monde est dans l'attente un petit peu là pour Noël. Donc forcément, il y a une incertitude et les commandes ont tardé à arriver. On a besoin de savoir ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent.
À un mois de Noël, alors que les bars et les restaurants sont toujours fermés, comment survivent les agriculteurs? La plupart n'arrivent pas à écouler leurs stocks. Sont-ils les victimes de ce deuxième confinement? Ce sera le dossier de ce journal.
Auprès des producteurs de fromage, d'huîtres, de volailles, on va tenter de comprendre l'ampleur de cette crise et les enjeux des prochaines semaines. Et le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, dans 10 minutes avec nous.
À Vesoul, Jonathan Daval connaîtra sa peine d'ici ce soir. Lui qui a avoué le meurtre de sa femme Alexia, il risque la prison à vie.
Enfin, il y a ceux qui verront le verre à moitié vide. Le PSG a perdu hier soir. Et le verre à moitié plein, le PSG a gagné hier soir. Pendant que les hommes de Thomas Tuchel sombraient à Monaco, les femmes ont créé l'exploit au Parc des Princes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et pour commencer ce journal et notre dossier agriculture, je vous propose donc un petit retour 48 heures en arrière. C'était jeudi soir. La patronne de la FNSEA, Christiane Lambert, était l'invitée de Julien Bugier sur Europe 1.
La demande, c'est vraiment que les Français commandent dès maintenant, réservent leurs produits en fonction de la taille de la famille. C'est un appel, un cri du cœur. Nous en avons vraiment besoin. Et si les Français sont au rendez-vous, ça va redonner du cœur à l'ouvrage et aux producteurs et aux restaurateurs.
Cet appel, ce cri du cœur des agriculteurs, on a voulu le prolonger sur Europe. On sait que les bars, les restaurants sont fermés depuis 3 semaines. Et au départ de cette chaîne alimentaire, il y a les producteurs. Sont-ils les victimes oubliées du reconfinement? C'est le dossier du jour.
Le dossier que l'on ouvre à Lille, où nous attend notre correspondant Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Ouais, bonjour Marguerite, bonjour Pierre.
Bonjour.
Lionel, chez vous dans le Nord, parmi les filières très impactées par le reconfinement, il y a notamment les producteurs du fameux maroilles. Ils savent déjà, et ils vous le disent, que leur fromage ne sera pas de la fête cette année.
Oui, vous savez, c'est loin d'être anecdotique hein, pour ces producteurs de lait, ces affineurs, ces fabricants, une filière qui produit tous les ans 4200 tonnes de fromage AOP. Vous savez, le maroilles, comme d'autres grands fromages en France, hein, c'est un produit phare des réveillons de fin d'année dans la région. Et certains producteurs réalisent 30% de leur chiffre d'affaires au mois de décembre. Alors forcément, les fermetures de restaurants, les soirées de réveillon annulées, c'est autant de pertes potentielles pour cette filière. Et il n'est pas du tout garanti que les ventes en commerce, en grande surface ou même en vente directe permettent de combler le manque à gagner, puisque les réveillons familiaux en petit comité ne favoriseront pas, on l'imagine bien, la consommation. Et puis ce fromage qui a été affiné pendant des semaines, eh bien c'est par définition un produit périssable. Et le risque, c'est que quand les restaurateurs rouvriront, peut-être à la mi-janvier, eh bien une bonne partie de la production soit perdue.
Lionel Gougelot en direct de Lille ce matin. Lionel, vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. On évoque ce matin cette crise du monde agricole amplifiée par l'approche des fêtes.
Et oui, est-ce qu'il y aura des déjeuners, des dîners de Noël en famille? Est-ce qu'il y aura de la dinde dans les assiettes? Pierre Arbulot, les annonces d'Emmanuel Macron mardi prochain vont donner le ton.
Oui, c'est bien la première fois qu'une décision gouvernementale va orienter le menu du dîner de Noël. Les mots confinement et restrictions sociales donnent la chair de poule aux éleveurs de grosses volailles festives comme les dindes ou les chapons.
Il y a quand même une grosse inquiétude actuellement dans la filière.
Difficile, voire impossible à vendre si les rassemblements familiaux sont interdits ou limités, explique Jean-Michel Schaeffer, président de l'interprofession de la volaille.
En fonction des possibilités qu'on aura de se regrouper, il y a potentiellement des craintes de pouvoir vendre ou non nos volailles. Donc, on est en train de travailler en ce moment dans la filière avec les distributeurs pour voir de quelle manière on peut proposer ces volailles-là en découpe.
Situation encore plus délicate pour leurs confrères du foie gras. Novembre-décembre, c'est 75% du chiffre d'affaires annuel, dont plus de la moitié dans les restaurants et à l'export. Deux marchés complètement bouchés par le Covid-19 alors qu'un autre virus menace le secteur. La grippe aviaire.
La filière de la volaille est touchée, celle de la pêche également. On vous retrouve à Lille, Lionel Gougelot, puisque c'est dans les Hauts-de-France que se trouve le plus grand port de pêche français, c'est le port de Boulogne-sur-Mer, où les petits pêcheurs subissent la crise de plein fouet.
Effectivement, ceux qui souffrent le plus sont ceux qui comptaient sur la saison de la coquille Saint-Jacques ou de certains crustacés comme le homard ou le crabe. La fermeture des restaurants et l'impossibilité de vendre leur pêche entraînent des pertes d'exploitation de l'ordre de 40% pour certains petits bateaux. Et là encore, la vente en commerce ne rattrapera pas tout le manque à gagner. Même incertitude, même inquiétude dans la zone industrielle Capécure à Boulogne-sur-Mer, qui regroupe, vous savez, les entreprises de transformation du poisson, les marailleurs. Certaines entreprises spécialisées dans l'approvisionnement de la restauration sont au bord du gouffre et n'ont pas d'autres débouchés. Et puis, plus généralement, le contexte entraîne des prix à la baisse, à la criée sur certains produits haut de gamme, comme le bar de ligne ou encore le Saint-Pierre, ce qui impacte là aussi la rentabilité des bateaux.
Lionel, on vous retrouve dans un instant. Et dans ce Tour de France de l'agriculture, on va maintenant s'arrêter plus à l'ouest, où les producteurs d'huîtres du Morbihan se demandent, eux aussi, eh bien, comment écouler leur production à Noël. Ils comptent sur l'aide de la grande distribution. Et vous allez l'entendre dans le reportage de Charles Guyard, ben, c'est pas gagné.
Il y a certaines enseignes qui sont prêtes à nous aider pour qu'on puisse casser le moins possible l'entreprise.
La grande distribution au secours des petits producteurs, cela existe pour Renan Henry, ostréiculteur dans le Morbihan, mais ce n'est pas une généralité.
D'autres, au contraire, sont là pour du prix.
Des prix tirés vers le bas aujourd'hui, peut-être encore plus bas demain, puisque les stocks ne désemplissent pas avec le confinement. Alors dans la détresse, certains producteurs craquent face à des distributeurs moins vertueux et aux méthodes toujours plus agressives malgré la crise. C'est ce qu'a constaté Sébastien Lemoine, président du syndicat des ostréiculteurs de Carnac.
On a des collègues qui vendaient, mettons, à 5 euros le kilo aux distributeurs et qui aujourd'hui, on leur demande plutôt 4,50 voire 4 euros. Le problème, c'est que derrière, à la production, les coûts restent les mêmes et forcément, en baissant le prix de vente, on ne va pas forcément pouvoir terminer l'année.
Et difficile de faire sans la grande distribution puisque près d'un tiers des huîtres françaises sont vendues en grande et moyenne surface. Dans le Morbihan, Charles Guyard, Europe 1.
Lionel Gougelot, vous êtes toujours avec nous à Lille. Et pour terminer ce dossier, vous avez voulu nous parler ce matin d'un exemple plutôt positif dans cette crise qui touche le monde agricole. À Lille, un restaurateur a décidé de tendre la main aux producteurs. Il leur ouvre les portes de son établissement.
Oui, effectivement. Vous vous souvenez de Florent Laden? Il était finaliste de l'émission Top Chef sur M6 en 2013. Et bien, ce restaurateur, c'est un chantre de la cuisine de terroir. Florent Laden ne travaille qu'avec des producteurs locaux, des maraîchers, des éleveurs, des boulangers. Alors, pour leur permettre d'écouler une partie de leur production malgré la fermeture de ces restaurants, eh bien, il a décidé tout simplement de les accueillir dans un de ces établissements du Vieux-Lille, c'est le Bloempot, et c'est tous les samedis de 10h à 14h.
Aujourd'hui, le Bloempot n'est plus un restaurant, c'est un marché où on accueille nos producteurs comme ils le souhaitent. Ils viennent et puis c'est eux qui gèrent la vente eux-mêmes. Je ne sais pas honnêtement ce qu'il en est au niveau du chiffre d'affaires, je sais que c'est une initiative qui leur fait du bien. De toute façon, c'est mieux que rien. Parce que si les producteurs disparaissent, c'est une grande partie de notre travail qui va disparaître. Je dis les producteurs parce que ça fait plus professionnel, mais c'est mes potes en fait. Et si demain tous ces petits producteurs disparaissent, il n'y aura plus que les gros et il ne va pas falloir se plaindre de manger des produits de qualité vraiment moindre.
Merci Lionel Gougelot.
Transformé en marché, ça rencontre un vrai succès. D'ailleurs, il envisage d'ouvrir son restaurant à ses potes producteurs un deuxième jour dans la semaine, ce sera le mercredi.
Merci Lionel Gougelot, vous étiez notre fil rouge pour ce dossier du 8h consacré à la crise du monde agricole, sujet que l'on évoquera donc dès la fin de ce journal avec Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, qui sera mon invité à 8h15. C'est l'un des faits divers les plus retentissants de ces dernières années. Le verdict dans le procès d'Aval doit tomber d'ici ce soir.
Jonathan Daval, qui avait d'abord pleuré la disparition de sa femme, puis participé aux recherches avant d'avouer le meurtre d'Alexia. Jonathan Daval est jugé depuis lundi par les assises de la Haute-Saône. Il a fait face à sa belle-famille, des parties civiles qui attendent aujourd'hui une condamnation exemplaire. Le récit de cette dernière journée d'audience avec Arthur Mbaché.
Une décision à la hauteur de nos souffrances successives. Voilà ce qu'on attend. À la veille du verdict, dernière plaidoirie hier soir des parties civiles, l'avocat des parents de la victime, Gilles-Jean Portejoie. Comment oublier Alexia? Pour vous, un simple bout de chair quand vous la mettez dans la camionnette. L'épouse que l'on tire par les pieds dans les ronces. Comment oublier? Vous mettez le feu au corps, vous niez son humanité. Comment oublier les mensonges, dit l'avocat. Le premier matin, vous nous faites croire qu'elle est vivante. Première trahison. Pendant 3 mois, vous racontez tout et n'importe quoi à la France entière. Deuxième trahison. Les premiers aveux, à minima. Troisième trahison. Vous accusez la belle famille. Quatrième trahison. Et ça continue, dit-il. Comment oublier? Un peu plus tôt, à l'audience, le dernier interrogatoire de l'accusé, une avocate qui veut en finir avec l'image d'une Alexia dominatrice et castratrice demande à Jonathan Daval, en 13 ans de vie commune, qu'est-ce qu'elle vous a obligé à faire que vous n'aviez pas envie? Faire l'amour sur la fin? À part ça, il y a un très long silence. « Je vois pas », dit l'accusé. Réponse, ça fait pas beaucoup quand même pour quelqu'un qui est dominé. Vesoul, Arthur Mbaché, Europe 1.
Arthur Mbaché qui suit pour Europe 1 ce procès depuis le départ. Les réquisitions auront donc lieu ce matin avant le verdict attendu ce soir.
Vous restez avec nous à 8h09, la suite du journal dans un instant avec les filles qui ont sauvé le foot. À tout de suite.
Europe 1, votre
Votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Suite et fin du journal de Marguerite Lefebvre. Quand on aime le foot, Marguerite, et qu'on supporte le PSG, c'est ce qu'on appelle une soirée mitigée.
Eh oui, les hommes de Thomas Tuchel ont perdu face à Monaco, 3-2. Mais dans le même temps, au Parc des Princes, c'est un petit exploit qu'ont réalisé les joueuses du PSG. Elles ont battu ce qui se fait de mieux en France et en Europe. Victoire face à Lyon, Julien Froment.
Des cris de joie au coup de sifflet final qui en disent long sur l'exploit réalisé par le Paris Saint-Germain. Cela faisait en effet 80 matchs, 4 ans que Lyon n'avait plus perdu en championnat. Plus mordante, plus efficace, Paris a logiquement dominé l'OL et se retrouve désormais devant au classement. Pour autant, la défenseure Irène Paredes garde la tête froide.
Nous, à l'intérieur de vestiaire, on le savait déjà qu'on pouvait les battre et on continue à travailler, même si on a gagné, on a fait beaucoup de choses bien, mais aussi beaucoup d'erreurs. Le titre, ça reste toujours un objectif et et on va bosser pour ça.
À 1000 km de là, pas d'effusion de joie au stade Louis II pour les garçons du PSG. Bien au contraire, une défaite déroutante contre Monaco 3-2, alors qu'ils menaient confortablement 2-0 à la pause. Mais l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a déjà la tête au prochain match.
Je connais mon équipe, je connais la situation très très bien. Et pour ça, on va essayer d'orchestrer des choses pour mardi que nous sommes capables de gagner contre Leipzig. C'est un final et on va préparer comme une finale.
Une finale en effet, car le Paris Saint-Germain doit absolument l'emporter contre Leipzig au Parc des Princes mardi prochain pour garder son destin européen entre ses mains.
Julien Froment. Et puis notez que dans l'autre rencontre de Ligue 1, hier soir, Bordeaux a battu Rennes au Roazhon Park. Victoire des Bordelais 1-0. Enfin, il y a du changement à vous signaler en tête du Vendée Globe. C'est désormais le Français Thomas Ruyant qui mène les opérations. Il a pris la tête du classement ce matin devant le Gallois Alex Thompson, alors que les skippers sont toujours dans l'Atlantique Sud au large des côtes brésiliennes.
Merci Marguerite Lefebvre.